Prions. Notre Dieu et notre Père, merci. Ah, quelle grâce! Quel bonheur d'être dans ta présence, Seigneur! Et quelle joie de pouvoir ouvrir ensemble ta parole et recevoir ton enseignement. Seigneur, nous te demandons ta grâce pour que les oreilles de nos cœurs puissent être ouvertes et que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire, afin que nos vies t'honorent davantage. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta bonté envers nous. Merci pour tout ce que tu fais en Jésus-Christ, qui intercède pour nous à l'instant même, et qui, selon sa promesse, par son esprit, par ton esprit, Seigneur, tu es au milieu de nous. Nous te louons et nous te bénissons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Et nous allons dans le livre de Jonas. Nous avons commencé il y a un mois environ. Le livre de Jonas, et nous sommes arrivés au deuxième chapitre que nous lisons. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenu jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas est un prophète de l'Éternel, un porte-parole, un messager, un envoyé de Dieu. L'appel venait directement de l'Éternel, et donc le ministère prophétique était une manifestation de sa grâce. De sa grâce envers son peuple, généralement, mais parfois aussi en faveur des peuples étrangers, de peuples païens, et même ennemis d'Israël, comme nous en avons l'exemple dans le livre de Jonas. Le ministère prophétique était une manifestation de la grâce de Dieu, parce que, le plus souvent, nous voyons le prophète intervenir dans des périodes où la connaissance de Dieu était devenue voilée, assombrie, par toutes sortes d'erreurs, par le péché du peuple ou de ses conducteurs, par l'idolâtrie ou la nonchalance. Le prophète n'est donc pas un homme premièrement chargé d'annoncer l'avenir, mais d'appeler le peuple à la réflexion et à se détourner de ses mauvaises voies. Le prophète était comme une lumière de Dieu que Dieu envoyait à son peuple afin qu'il marche à nouveau dans ses bons sentiers. Et étant donné que le cœur humain peut être si endurci, les paroles prophétiques, les oracles que Dieu mettait dans la bouche de ses prophètes pouvaient être parfois très sévères et annonciateurs de grands jugements. Mais ce n'était jamais en vue de la condamnation définitive du peuple ou de la nation païenne. C'était au contraire en vue de son rétablissement, pour Israël en tout cas, ou pour manifester sa miséricorde et sa grâce à un peuple étranger, comme nous le voyons dans le livre de Jonas. Dans l'introduction, nous avions dit que la prophétie de Jonas est assez particulière, à plus d'un titre d'ailleurs. Je rappellerai simplement que de manière explicite, c'est-à-dire dans les paroles que Jonas va effectivement prononcer de la part de l'Éternel, sa prophétie, donc, se limite à une courte phrase adressée non pas à Israël, mais à un peuple ennemi parmi les plus farouches, les Assyriens, et en l'occurrence les Assyriens de la grande ville de Ninive. Cette courte phrase que Dieu parviendra finalement à faire prononcer par son serviteur Jonas, que Jonas criera parcourant la ville, c'est celle-ci, « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Il est possible que Jonas ait donné la raison de cet ultimatum, c'est que la méchanceté des Ninivites est montée jusqu'au ciel. Donc ça, c'est le message explicite de la prophétie du livre. Amener ou appeler à la repentance un peuple païen et surtout ennemi d'Israël. Mais maintenant, le livre, dans son entier, contient une autre prophétie, une parabole, en quelque sorte, qui ne s'adresse pas cette fois-ci aux païens, mais au peuple de Dieu. Aux Israélites de l'époque et certainement à l'Église d'aujourd'hui. À l'Église d'aujourd'hui, puisque toute parole a été écrite à notre intention, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Ce message implicite qui transparaît au travers de tout le livre de Jonas, c'est justement que Dieu n'a jamais eu l'intention de limiter son salut, de restreindre la manifestation de sa grâce au seul peuple d'Israël. Et le prophète Jonas dans tout ça. Bien, l'histoire qui nous est relatée dans son livre peut nous donner l'impression, si nous la lisons d'une manière un peu distraite, d'un petit divertissement, une récréation au milieu d'un recueil de petits prophètes autrement plus sérieux. Alors c'est vrai que l'histoire est plaisante, fantastique, et même amusante par certains côtés. Mais le but du Saint-Esprit n'est pas de nous divertir, mais bien de nous communiquer au travers de ce récit quelque chose d'important pour notre compréhension de la souveraineté de Dieu et surtout de l'étendue de sa grâce. Qu'il veut communiquer, comme je viens de le dire, à des hommes de tout peuple, de toute nation, pourvu qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils se détournent de leurs mauvaises voies. De tous les peuples de la terre, il n'y a pas une nation, il n'y a pas un statut de l'homme, une condition humaine qui soit plus méritante qu'une autre, qu'un autre. Si Dieu a choisi le peuple d'Israël et lui a accordé tant de privilèges par rapport aux autres peuples, ce qui est indéniable, comme le souligne l'apôtre Paul dans Romains 9, au verset 4 et 5. Donc ce n'est pas parce que le peuple d'Israël avait gagné la faveur de Dieu au travers de sa valeur morale, de ses actes de justice et sa sainteté. Non, mais c'est par pure grâce qu'il a été choisi. Et c'est pour qu'il devienne le témoin dans le monde de la sainteté et de la justice de Dieu, et justement aussi de sa grâce et de sa miséricorde. il a échoué. Bon. Mais c'est exactement de ça aussi que nous sommes les dépositaires. L'Église d'aujourd'hui. Quand Dieu nous sauve par son Fils Jésus-Christ, il nous revêt aussi de la responsabilité d'être ses témoins partout où nous vivons, partout où il nous envoie, auprès de ceux que nous jugeons bons, comme auprès de ceux que nous jugeons mauvais ou méchants. Et là, nous entrons directement dans l'histoire de Jonas. C'est exactement ça. Dieu l'envoie précisément auprès de ceux qu'il juge, avec raison d'ailleurs, qui jugent mauvais et très méchants, les Assyriens de Ninive. Mais la perspective de voir la miséricorde divine accordée à un peuple qui est si méchant avec Israël est une chose tout à fait inconcevable aux yeux de Jonas. Et ça n'entre tout simplement pas dans la compréhension qu'il a de la grâce ou de l'élection. Et donc, quand Dieu l'envoie à Ninive pour avertir ses habitants de son jugement imminent, Jonas, qui sait pertinemment qu'il n'a pas à discuter les ordres de l'Éternel, puisqu'il est son prophète, eh bien non. En effet, il ne discute pas, mais prend la fuite dans la direction opposée. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à Jaffa, en train d'embarquer sur un navire qui s'apprête à faire voile pour Tarsis, sur la côte atlantique de l'Espagne. À son époque, on n'aurait pas su où aller plus loin. Seulement un peu plus tard, pendant la croisière, Jonas, qui ne l'avait apparemment pas encore appris, Jonas va rapidement se rendre compte qu'il n'est pas avantageux et surtout qu'il est absolument inutile de chercher à se soustraire à la vue et à la volonté de Dieu. Maintenant, il nous faut considérer un aspect de la personnalité de Jonas qui est débattu parmi les commentateurs. Je le rappelle simplement ici, et c'est ma position. Je le rappelle comme on a déjà eu l'occasion de le remarquer, Jonas est un homme courageux. Parce que ce n'est pas la crainte des Ninivites, connus pour leur cruauté. Ce n'est pas la crainte des hommes qui a fait fuir Jonas. C'est en quelque sorte la crainte de Dieu, ou plus précisément, la crainte qu'une certaine catégorie d'hommes connaissent le salut de l'Éternel, que l'Éternel puisse déverser ses compassions, sa miséricorde, sa bonté sur un peuple ennemi d'Israël. Voilà ce que Jonas craignait le plus. Bien sûr, il aurait mieux valu qu'il craigne Dieu. Mais dimanche dernier, on s'est encore rendu compte du courage du prophète quand il a donné aux matelots le moyen de calmer la tempête. Il fallait qu'ils ne se gênent pas, les matelots, qu'ils ne se gênent pas de jeter par-dessus bord Jonas. Et il semble par là que le prophète reconnaissait tout à fait son péché, sa rébellion contre Dieu, et qu'il estimait par conséquent tout à fait légitime d'être châtié. Mais jusqu'à devoir affronter la mer en furie, du courage, vous en conviendrez qu'il en faut. Nous avions conclu notre dernière prédication en remarquant que si Jonas n'était pas encore parti pour Ninive, néanmoins, Dieu l'a déjà utilisé pour être un moyen formidable de sa grâce envers cet équipage de païens sur le bateau. Touché par le témoignage du prophète et par la puissance et la souveraineté de Dieu qui contrôle tout ce qui existe. Et justement, ce que nous allons encore voir aujourd'hui, mais qui ressort du livre tout entier, c'est que nous voyons constamment l'Éternel rattraper Jonas, le recadrer, le remettre sur la voie, afin qu'il accomplisse finalement sa volonté, comme il l'avait prévu depuis le début. Et pour ça, le Seigneur utilise tous les moyens à sa disposition, en particulier ici, les éléments de la nature. Après qu'il ait provoqué cette terrible tempête, l'Éternel va maintenant envoyer un gros poisson pour récupérer Jonas et le sauver d'une noyade garantie. Il fallait bien, puisqu'il avait décidé que ce serait lui, Jonas, le moyen de sa grâce envers les Ninivites. C'est aussi comme ça, chers amis, dans nos vies. Et heureusement que c'est comme ça. On fait parfois de grosses boulettes. On s'enfonce dans l'endurcissement. Ou on se rue sur des chemins sur lesquels il aurait mieux valu ne jamais mettre les pieds. Et nous voyons notre bon Père Céleste venir nous récupérer. Récupérer la situation pour que nous ne soyons pas complètement anéantis par notre propre faute, par la légèreté de nos actions, de nos paroles, ou simplement de notre réflexion. Nous avions été frappés, durant la tempête, par l'inaction de Jonas, qui s'était réfugié dans le sommeil, en bas, tout au fond, dans la cale du navire, pendant que sur le pont, tout le monde priait ses idoles, invoquait ses faux dieux, et s'employait à tenter de sauver le navire, de sauver des vies. Et donc le seul à connaître le vrai Dieu, qui a fait la mer et la terre, qui tient tout entre ses mains, oui, le seul à pouvoir efficacement prier, à pouvoir être entendu par l'Éternel, il se tait. Il ne juge pas nécessaire d'invoquer son Dieu, si ce n'est pour lui-même, au moins pour ceux qui sont en train de braver la furie des vagues. C'est une attitude consternante, n'est-ce pas? Mais voilà qui devrait aussi parler à nos cœurs. Nous aussi à notre devoir d'intercesseur. C'est moins drôle, ça. Hein? Un rôle plus grand que nous ne le pensons. Il s'agit de l'histoire du paralytique, au début du deuxième chapitre de l'évangile de Marc. Ce paralytique avait été descendu depuis le toit d'une maison dans laquelle se trouvait Jésus en train d'enseigner la foule accourue dans, à l'intérieur et autour de la maison. C'était doublement impossible pour ce paralytique d'être introduit dans la présence de Jésus, parce qu'il ne pouvait pas marcher, et parce que la foule empêchait à quiconque de s'approcher. Et voilà l'ingéniosité et les efforts de quatre hommes qui ont permis à ce malade, à cet exclu de la société, d'entrer en contact avec le Christ et de trouver en lui le salut. Quel beau ministère que de porter devant le trône de la grâce les estropiés de la vie qui nous entoure. Ça ne vous fait pas envie? En tout cas, Jonas ne l'avait pas compris sur le navire. Et pourtant, Dieu s'est servi de lui, malgré lui, pour conduire ses matelots à ce qui semble bien être la crainte salutaire de Dieu. Comme pour corriger l'attitude impie de Jonas dans le premier chapitre, le deuxième est presque intégralement dédié à sa prière. Et quelle prière ? Digne d'un prophète, assurément. On en parle dans un instant. Donc, sur le conseil, sur la recommandation de Jonas, les matelots du navire l'ont jeté par-dessus bord, au beau milieu de la tempête. Et on a vu dans la fin du premier chapitre que ce n'est pas du tout de gaieté de cœur qu'ils se sont exécutés à cette besogne criminelle, finalement. Non, d'abord, ils se sont efforcés de rejoindre la terre en tirant de toute leur force sur les rames du navire. Mais ils n'ont rien pu faire contre les éléments déchaînés. C'est donc contraint. Qu'ils ont décidé de se débarrasser de Jonas. Non sans avoir préalablement remis leur sort à l'Éternel, en le suppliant d'avoir pitié d'eux et de ne pas les charger du sang innocent. Encore un lien ici avec les évangiles. Quand le gouverneur Pilate s'est rendu compte qu'il ne parvenait à rien, lui non plus, face à la tempête de la foule qui lui réclamait la mort de Jésus. Mais Pilate s'est bien moins investi pour sauver notre Seigneur que les matelots pour Jonas. Matelots qui ont droit ici à notre plus grand respect, si on les compare à Pilate, qui a aussi déclaré, Pilate, qu'il voulait être innocent du sang de ce juste. Mais lui, Pilate, contrairement aux matelots qui ont élevé leur prière à Dieu, lui, il s'en est seulement lavé les mains. Revenons sur le navire. Et maintenant, on imagine la scène. Ou plutôt, on a beaucoup de peine à se l'imaginer. Les matelots empoignent Jonas tout en scrutant le ciel, en espérant du plus profond de leur cœur qu'ils apercevront un petit coin de ciel bleu qui pourrait encore les dispenser de commettre l'irréparable. Mais non, rien. Ni même ne serait-ce qu'une impression d'accalmie. Et donc, c'est la mort dans l'âme qu'ils jettent Jonas le plus loin possible pour qu'au moins une vague ne vienne pas le fracasser contre le navire. Et voilà Jonas aux prises avec la fureur des eaux. Il boit la tasse une fois, deux fois. Vous le voyez ? On ne sait pas s'il crie. De toute façon, avec le hurlement du vent, personne ne pourrait l'entendre, même du navire. C'en est fini. Jonas est englouti par les eaux. L'histoire aurait pu se terminer là, et Jonas aurait reçu le juste salaire de son péché. Mais ce serait sans compter avec son Dieu, notre Dieu, qui tient en réserve beaucoup de grâce pour ceux qui se réfugient sous son aile, qui est plein de bonté pour ceux qui se confient en lui de tout leur cœur. Si bien que finalement ce n'est pas la mer qui engloutit véritablement Jonas, mais un grand poisson que Dieu a préparé et qu'il a fait venir tout exprès pour recueillir son serviteur. Vous voyez, avec l'épreuve, notre bon Père Céleste on voit aussi le moyen de s'en sortir. Donc ce grand poisson est venu recueillir Jonas, pas comme une tombe, mais pour ainsi dire, un peu comme le ventre d'une mère, duquel Jonas sortira bientôt. 3 jours, c'est court pour une gestation, dont il sortira avec de nouvelles dispositions. Bien sûr, ces 3 jours et 3 nuits nous font penser à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette même courte période qui a précédé sa résurrection, après qu'il ait donné sa vie pour nous sauver. Jonas aussi a sacrifié sa vie pour le salut des matelots. Et on peut dire que, comme pour Jésus, Dieu a conduit les événements jusqu'à leur dernière extrémité. Jusqu'au point de non-retour, la crucifixion pour Jésus, la noyade pour Jonas. Et dans les 2 cas, ils ont accepté de donner leur vie pour le salut de ceux que Dieu voulait sauver. Seulement, il y a une grande différence, quand même, entre Jonas et Jésus. Parce que pour sauver le monde, c'est-à-dire pour sauver tous ses élus, et par conséquent pour condamner le péché dans la chair, et apaiser la colère de Dieu, il a fallu que notre Seigneur Jésus prenne sur lui la juste condamnation de notre péché. La mort. Sans la mort du Christ sur la croix, nous ne pourrions jamais être sauvés. Parce que c'est de notre péché dont il s'est chargé. C'est de notre condamnation dont il a été frappé. En sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ont été revêtus de la parfaite justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation, puisque dorénavant, Dieu nous voit aussi justes, aussi saints que son Fils bien-aimé. Et ça, c'est une vérité qui nous est des plus profitables de recevoir par la foi. Une vérité capable de nous procurer une grande joie et une profonde reconnaissance. Alors bien entendu que la comparaison avec Jonas trouve ici ses limites. On peut dire qu'effectivement, au travers de Jonas, Dieu a sauvé l'équipage du navire. Mais Jonas n'est pas mort, ou en tout cas pas d'une mort absolue. Il a perdu connaissance, c'est à peu près sûr. Son cœur a même peut-être cessé de battre un court instant. Rendez-vous compte. Dans la tempête, dans les eaux, il a coulé. Et donc, si Dieu a finalement recueilli le Seigneur Jésus dans son ciel de gloire au jour de l'ascension, pour le moment, Jonas n'a été recueilli que dans le ventre d'un grand poisson. Et c'est de là qu'il adresse cette magnifique prière. Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble un peu à un psaume de David? Mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant parce que la prière que vous avez sous les yeux dans ce deuxième chapitre est tirée de plusieurs extraits de 5 psaumes différents. Pas tous de David, d'ailleurs. Les éléments parfaitement agencés de ce cantique de Jonas nous font sans doute comprendre qu'il n'a pas adressé sa prière telle qu'elle pendant qu'il était dans le ventre du poisson. Peut-être que oui, mais enfin, mais probablement plus tard, quand il a écrit son livre. Donc, quoique sans aucun doute, déjà au fond de la mer, des supplications sont montées vers le Dieu de son salut. Et sans doute aussi des actions de grâce, en prévision de la délivrance à laquelle Jonas croyait très fort. On va bientôt parcourir cette prière. Mais ce qui frappe quand même le lecteur un peu attentif, quand il a terminé même le livre de Jonas, c'est qu'il ne trouve pas de paroles de repentance, de demande de pardon à Dieu de la part, oui, de la part du prophète. Non, rien. Jonas se rebelle, résiste, désobéit, et maintenant qu'il revient à Dieu de tout son cœur, comme on le voit au travers de cette prière, on s'attendrait à trouver une parole explicite de repentance. Rien. Le seul à ne manifester explicitement, je précise, le seul à ne manifester explicitement aucun repentir dans toute cette histoire, dans tout le livre, c'est Jonas. Même Dieu, comme on le voit tout à la fin du troisième chapitre, se repent du mal qu'il avait résolu de faire aux Ninivites. Alors bien sûr, ce terme de repentance prêté à Dieu n'a pas la même signification que celle dont nous attendions de la part de Jonas. Mais en attendant, c'est un fait, l'Éternel était prêt à châtier la ville de Ninive, à lui faire du mal. Et finalement, comme les Ninivites se sont repentis, il leur a fait du bien. Donc ce que je voulais dire, et ce à quoi personnellement je m'attendais, c'est d'entendre de la bouche de Jonas, là, dans sa prière, des paroles d'humiliation, de demande de pardon pour l'attitude déplorable qui était la sienne dans le premier chapitre, qui a conduit toute cette histoire de la tempête de la mer. Et on est un peu déçu parce qu'on n'en trouve pas. Ou alors, comme c'est un personnage quand même très entier, au caractère fort, est-ce qu'on ne devrait pas avoir plutôt envers lui un peu de sollicitude et de compréhension pour trouver finalement, derrière les mots qu'il utilise dans sa prière, l'humiliation et la repentance que nous cherchons. Dans nos vies et dans nos relations, il me semble que c'est la même chose. Alors c'est vrai que c'est très agréable de s'entendre dire de la part de quelqu'un qui nous a fait du mal une parole de repentance, de demande de pardon. Je veux dire que c'est agréable parce que ça correspond au modèle biblique. C'est pas agréable parce qu'on est content. Mais il peut arriver que la personne en question, peut-être un frère, soit un peu comme Jonas, qu'il soit très entier, avec un fort caractère, peut-être un peu bourru, et qu'alors il ne pourra pas ou ne saura pas demander pardon avec des mots. En revanche, son attitude ne laissera aucun doute sur sa repentance. Oui, parce qu'il aura, par exemple, offert un cadeau, il va rendre des services. Je veux dire qu'il y a quelque chose de beau qui va se voir dans cette personne. Il me semble qu'il serait injuste de ne pas pardonner à ce frère qui manifeste les signes d'une vraie repentance, mais qui n'a pas su l'exprimer avec des mots ou fort maladroitement. Mes amis, Dieu ne regarde-t-il pas à l'attitude et au sentiment de notre cœur? Alors je ne suis surtout pas en train de dire que ce que nous exprimons verbalement n'est pas important, mais simplement que notre miséricorde, celle que nous devons à notre prochain, doit voir plus loin que sa maladresse du langage. Dans toute cette histoire de Jonas, ne voyons-nous pas un Dieu rempli de miséricorde à l'égard de son prophète? Bon, nous y arrivons. Que dit Jonas dans son cantique? D'abord, il exprime la réalité toute crue, telle qu'il l'a vécue quand il s'est trouvé submergé par les flots. Versets 4, 6 et 7a. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. La version Martin dit, les roseaux se sont entortillés autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Impossible d'en sortir, hein, comme une barre derrière la porte. Jonas a donc bel et bien coulé, et il est passé tout près d'une mort définitive. Voilà l'expérience qu'il a faite après que les matelots l'ont jeté à la mer. Et vous avez vu, pour Jonas, c'est très clair, les matelots n'y sont pour rien. Seulement des instruments dans la main de Dieu pour que s'accomplisse sa volonté. Oh oui, c'est bien toi, Seigneur, qui m'as jeté dans le cœur de la mer. Le verset 2, c'est un peu le résumé de tout le cantique. Il est parlé de cette détresse de Jonas qui n'a pas pu résister à la fureur des vagues et qu'alors il a vu arriver sa dernière heure. Mais immédiatement, il s'est tourné vers l'Éternel, le seul qui pouvait le sauver de ce drame. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Elle est sans doute là, l'expression de la repentance de Jonas, puisque nous voyons que l'Éternel l'a exaucé, qu'il a répondu à son angoisse, l'a délivré de son agonie. Jonas fait référence au séjour des morts. Que faut-il comprendre par là? Pour faire court, disons qu'ici, pour le prophète, le séjour des morts, qui est le mot « Sheol » en hébreu, était un lieu où tous les hommes étaient réclamés après leur mort. Ce qui est d'ailleurs un peu la signification de ce mot de « Sheol », où il y a cette idée de d'être réclamé. Un séjour qui réclame les morts. Allez, venez. Ce n'est pas un endroit enviable, attrayant, à moins qu'on ait vécu l'enfer sur la terre. C'est un lieu de profondeur, sous terre, dans l'obscurité, où on n'a pas l'occasion de jouir de la bonté de Dieu, ni bien sûr de le louer. Plus tard, les Juifs ont pensé que les hommes, après leur mort, allaient dans deux endroits successifs. Premièrement, tous allaient dans le séjour des morts, qui était lui-même divisé en deux parties, l'une pour les bienheureux, l'autre pour les méchants. Et la partie qui était réservée aux bienheureux, ceux qui sont sauvés, il l'appelait le sein d'Abraham. On voit ça très bien dans la parole, dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, le sein d'Abraham. En revanche, ceux qui étaient condamnés allaient premièrement dans le séjour des morts, qu'on peut appeler aussi les enfers, à ne pas confondre avec l'enfer au singulier. Ils allaient dans le séjour des morts, puis passaient en enfer. Revenons à Jonas. Les termes de sa prière sont donc très forts. Est-il vraiment descendu dans le séjour des morts? Ou emploie-t-il cette image pour nous dire dans quelle profondeur de détresse il est descendu, un peu dans le genre de celle de Job? C'est difficile de répondre catégoriquement à cette question. En tout cas, dans le ventre du poisson, c'est l'obscurité totale. Hein, et ça doit sentir très mauvais. Mais ce qu'il nous faut bien considérer ici, c'est que la résolution de Jonas, après que l'Éternel lui a parlé, lui a ordonné de se rendre à Ninive, résolution qui a été de se détourner de la face de l'Éternel, de s'enfuir loin de lui, eh bien ce que nous découvrons ici, c'est que cette folle décision l'a entraîné bien au-delà de ce qu'il aurait jamais imaginé. Il a frôlé, pour ainsi dire, la mort éternelle. N'avons-nous pas ici l'image éclatante de ce que Dieu tient en réserve pour ceux qui ne l'écoutent pas, qui n'écoutent pas ses avertissements, qui n'écoutent pas son évangile? N'oublions pas que c'est Dieu qui a jeté Jonas dans l'abîme. De la même manière que c'est Dieu encore qui livre les méchants à leurs passions ignobles et méprisables quand ils refusent de l'écouter. C'est Paul qui nous le dit dans le premier chapitre de sa lettre aux Romains. Mais Jonas était prophète. Il connaissait l'Éternel. Il entendait sa voix. Nous aussi, nous la connaissons. Nous entendons sa voix, surtout au travers des Écritures. Savons-nous où nous pourrions être emmenés par notre propre faute si nous nous détournions de notre bon Père céleste, en n'écoutant pas son appel à le servir avec zèle, en ne renonçant pas à nos propres désirs, en ignorant les avertissements, en tenant pour peu de choses la grâce qu'il nous a faite, en envoyant son Fils bien-aimé sur la terre pour mourir à notre place? Oh, mais que son amour pénètre au plus profond de nos entrailles! Et que la présence, la repentance plutôt, et la foi véritable, soit constamment à notre ordre du jour. Que notre confiance en Dieu nous amène à nous conformer à toute la volonté de notre Seigneur. Rappelons-nous de cette parole répétée tant de fois dans l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais maintenant, déjà, Jonas peut proclamer que Dieu l'a fait remonter vivant de la fosse, pour ainsi dire du tombeau où il avait été précipité à cause de son endurcissement. Il est encore dans le ventre du poisson, mais il ne regarde pas aux choses visibles, à celles qui semblent évidentes. Il s'en tient aux promesses de Dieu. Et puis vient une parole tellement encourageante et tellement édifiante pour nous, en particulier qui venons de terminer notre série de prédications sur l'Épître aux Hébreux. Oui, pour Jonas également, son espérance n'est pas sur la terre, mais dans le Saint-Temple de Dieu. Fin du verset 8. Où Jonas a l'assurance que sa prière est parvenue. Oui, dans la présence même de Dieu. C'est là que nous-mêmes, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ nous représente devant le Père, qu'il intercède continuellement pour nous. Et c'est encore par lui que nos prières parviennent au Père. Et alors le cantique de Jonas se termine par des paroles d'un homme qui a compris ce qu'est la grâce, qui a été touché par la miséricorde de Dieu au plus profond de son cœur. Ce sont des paroles de louange et de consécration. Tout ça ressemble singulièrement à une renaissance, ce qui d'ailleurs est confirmé par le dernier verset, quand une fois encore la souveraineté de Dieu et sa toute-puissance sont célébrées par le prophète. Une parole tellement simple, tellement sobre, tellement vraie. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. L'obéissance du poisson a sûrement dû faire honte à Jonas. Mais quoi qu'il en soit, le voilà prêt maintenant à faire la route de Ninive. Amen.